Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de notre demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson pour vous accompagner en ce mardi 8 décembre 2015. Au sommaire ce matin.
Les avocats du président de l'Assemblée nationale ivoirienne dénoncent le mandat d'amener émis en France contre leur client Guillaume Soro.
Au Nigeria, une élection de gouverneur a été invalidée à cause de violences et de fraudes électorales présumées.
Ici aux États-Unis, Donald Trump, candidat aux primaires républicaines, sévèrement critiqué pour avoir appelé à fermer les frontières américaines aux musulmans.
Dans la partie magazine, plein feu sur le coup de colère des enseignants des écoles catholiques au Cameroun.
Ils dénoncent leurs conditions de travail en chantant.
28 ans que moi je travaille. Les salaires que nous avions quand l'école était, le collège était à 5 000. C'est ça que nous avons presque aujourd'hui où le collège est à 40 000, 60 000.
Également au programme les nouvelles sportives et économiques.
Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est donc visé par un mandat d'amener, mandat émis par la justice française, dans le cadre d'une plainte du fils de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les avocats de l'ancien chef rebelle protestent contre cette décision. Tatiana Mosso.
Les avocats du deuxième personnage de l'État ivoirien s'élèvent contre l'émission d'un mandat d'amener. Guillaume Soro est l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence de l'ONU sur le climat. La juge d'instruction cherche à l'entendre dans le cadre de la plainte de 2012 de Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain, selon des sources concordantes. Michel Gbagbo s'est plaint des conditions de son arrestation. Aucune preuve de violence physique n'a pu être établie lors de cette arrestation, affirment les avocats de Guillaume Soro. À l'époque des faits, M. Soro était Premier ministre, ministre de la Défense. C'est à ce titre qu'il est abusivement visé par une plainte, indiquent ses avocats, assurant qu'il coopérera avec la justice française, qu'il saisit de son côté d'une plainte en dénonciation calomnieuse contre Michel Gbagbo. Accusé d'attentat ou complot contre l'autorité de l'État par la justice ivoirienne, Michel Gbagbo, capturé avec son père Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, avait été remis en liberté provisoire en juillet 2013. Ce citoyen franco-ivoirien a porté plainte en France contre l'ancien Premier ministre de son père. Il a été empêché à plusieurs reprises de sortir du territoire ivoirien pour répondre au juge, selon son avocate.
Au Nigeria, l'élection du gouverneur dans l'état de l'ancien président Goodluck Jonathan a été partiellement invalidée en raison de violences et de fraudes présumées, rapporte l'AFP. Les électeurs du district de Southern Ijaw, dans le petit état de Bayelsa, devront ainsi revoter. Des affrontements ont opposé des partisans du gouverneur sortant, Siriake Dixon, candidat du parti d'opposition PDP, à ceux de Timipre Silva, candidat du parti au pouvoir. Le Congrès progressiste du président Muhammadu Buhari. Une femme a été tuée dans une fusillade, selon la police. D'autres sources font état de 4 morts, des fusillades ayant éclaté en plusieurs endroits.
14 opposants angolais jugés depuis la mi-novembre à Luanda dénoncent la lenteur de leur procès. Ils menacent d'entamer une grève de la faim si le tribunal ne les entend pas cette semaine. Leur lettre ouverte au chef de l'État, José Eduardo dos Santos, a été rendue publique hier. Les précisions de Lucie Lamont.
Maintenant, nous avons hâte d'être condamnés tout en sachant que c'est injuste, écrivent les 14 des 17 détenus actuellement jugés pour rébellion et tentative de coup d'État. Seuls les deux accusés qui comparaissent, Libre et Domingos da Cruz, n'ont pas signé la lettre. Si la phase des interrogatoires ne se termine pas dans la semaine du 7 au 11 décembre, nous entamerons une grève de la faim collective qui s'achèvera quand nos revendications seront satisfaites, affirment les 14 signataires, tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui réclame le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Les 14 signataires dénoncent aussi différents cas d'agression physique et psychologique sur des militants emprisonnés. Le procès qui devait initialement durer 5 jours est entré lundi dans sa 4e semaine. À ce jour, seuls 10 des 17 accusés ont été entendus. Devant le tribunal en novembre, Domingos da Cruz a été contraint de lire pendant 2 jours l'intégralité de son livre de près de 200 pages, outil pour détruire une dictature et éviter une nouvelle dictature que les opposants étudiaient au moment de leur arrestation.
Oscar Pistorius, reconnu coupable en appel du meurtre de sa compagne, demande ce mardi sa mise en liberté sous caution lors d'une audience où le champion paralympique sud-africain joue gros. En cas de refus, il retournera en prison d'après l'AFP. Pistorius est actuellement assigné à résidence chez son oncle à Pretoria après avoir passé un an derrière les barreaux. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de Riva Steenkamp, abattu par balle chez lui à Pretoria en 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bras de fer entre la Turquie et l'Irak, Bagdad exige le retrait immédiat des renforts turcs récemment arrivés sur son territoire. Ankara refuse, une situation qui accroît la tension dans une région déjà volatile. Compte rendu, Eddie Isango.
Des centaines de soldats turcs appuyés par 20 tanks ont été envoyés en Irak. Leur mission ? Protéger les contingents turcs qui forment les troupes irakiennes devant reconquérir Mossoul, ville sous contrôle du groupe État islamique. L'Irak menace de saisir les conseils de sécurité de l'ONU, mais pour le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, il est du devoir d'Ankara d'assurer la sécurité de ses instructeurs militaires en Irak. Des tensions historiques attisent cette dispute, explique Cengiz Aktar de l'université Süleyman Şah d'Istanbul.
Mossoul was very dear to the hearts of the founders of the Turkish Republic.
Mossoul tenait tant à cœur aux fondateurs de la République turque qu'il est considéré comme faisant partie de la nouvelle Turquie. Tout arabe, tout irakien connaît les arrière-pensées et desseins des Turcs concernant Mossoul, si bien qu'il était très symbolique d'y envoyer des troupes. Ankara est déjà impliquée dans une autre dispute avec la Russie après la destruction en vol d'un avion russe près de la frontière avec la Syrie.
Crise syrienne, le groupe rebelle Jaïch al-Islam a annoncé hier soir qu'il se rendrait à Riyad cette semaine pour une réunion sans précédent d'opposants au régime de Bachar al-Assad, devenant le premier groupe rebelle à confirmer sa présence à cette rencontre. Jaïch al-Islam est considéré comme le plus important groupe armé près de Damas et contrôle la plus grande partie de la banlieue de la Ghouta orientale, régulièrement bombardée par les forces gouvernementales. Selon l'AFP, des liens étroits avec l'Arabie Saoudite lui sont attribués. Les organisations qualifiées de terroristes comme le groupe État islamique et le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, ont été exclus de la rencontre.
La ministre américaine de la Justice a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur la police de Chicago. Une décision qui fait suite à un nouveau scandale ayant trait à la mort d'un jeune noir abattu par un policier blanc. Félix Yepassis-Zembrou.
Loretta Lynch a annoncé hier à Washington que ses investigations examineront le recours à la force létale et les questions raciales pour situer les responsabilités. L'annonce de cette enquête fédérale fait suite à plusieurs semaines d'une vive controverse. Laquan McDonald, jeune noir âgé de 17 ans, marchait dans une rue lorsqu'il a été abattu de 16 balles en octobre 2014. Une vidéo montre un policier blanc, Jason Van Dyke, tirant froidement sur l'adolescent noir. Cette toute dernière affaire avait provoqué de nombreuses manifestations et entraîné le renvoi du chef de la police de Chicago. Rahm Emanuel, le maire de la ville, a été même accusé d'avoir cherché à étouffer ce scandale pour avoir mis du temps à rendre publique la vidéo de l'incident. Ces 18 derniers mois, les brutalités policières qui ont coûté la vie à des Noirs ont déclenché des émeutes à Ferguson, Baltimore et d'autres villes.
Et toujours aux États-Unis, nouvelle sortie très critiquée de Donald Trump, candidat aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle de 2016. Le milliardaire, qui est en tête des sondages, a appelé hier à fermer les frontières américaines aux musulmans, évoquant le couple de tueurs de San Bernardino et les auteurs des attentats de Paris. Proposition applaudie par ses partisans, mais dénoncée par la classe politique américaine, démocrate et républicain confondus. La Maison-Blanche a dénoncé une idée contraire aux valeurs américaines. Quant à Hillary Clinton, candidate à l'investiture démocrate, elle a réagi sur Twitter en écrivant, je cite, « Donald Trump, vous ne comprenez rien, cela affaiblit notre sécurité ». Fin de citation.
Et maintenant, un condensé de l'actualité économique. Ce matin, c'est avec Arzuma Compaoré.
Le budget de la Côte d'Ivoire en hausse de près de 12% pour l'année 2016 se chiffre à 5 813 milliards de francs CFA. Selon le ministre ivoirien en charge du budget, Abdourahmane Cissé, que cite l'AFP, les priorités du budget demeurent le financement des secteurs de l'éducation, de la santé et du développement des infrastructures de base. L'Égypte, condamnée à payer 1,76 milliard de dollars à la compagnie d'électricité d'Israël. La décision a été rendue par la Chambre de commerce internationale. Elle vise à compenser les pertes financières occasionnées par l'arrêt des livraisons de gaz égyptien à Israël à la suite d'attentats contre le gazoduc reliant les deux pays. Les autorités égyptiennes ont fait savoir qu'elles feront appel. Les énergies renouvelables à l'honneur à la COP21 au Bourget près de Paris. La transition énergétique est centrale pour limiter le réchauffement climatique, a déclaré hier Rachel Kyle, vice-présidente de la Banque mondiale à l'ouverture d'une journée consacrée à l'énergie. Les responsables politiques et les entreprises entendent mobiliser à cette fin 10 milliards de dollars pour les énergies vertes en Afrique. Coup d'envoi de la ruée vers les métaux précieux spatiaux ici aux États-Unis. Une loi signée en novembre par le président Barack Obama autorise en effet l'exploitation commerciale des ressources dont regorgeraient les astéroïdes, à commencer par la Lune. Selon cette loi, tout matériau découvert par un Américain ou une entreprise américaine sur un astéroïde ou sur la Lune lui appartient, a expliqué à l'AFP l'avocat spécialisé Jim Dustin.
Merci Arzuma. Sans transition, le billet sportif de ce mardi matin, j'accueille Nicolas Pinou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Coupe du monde des clubs, le représentant africain s'est envolé hier pour le Japon.
Oui, le tout-puissant Mazembe, le club congolais de Lubumbashi, a pris l'avion lundi. On rappelle que les Corbeaux joueront le quart de finale contre le vainqueur du match entre Auckland et Hiroshima. Ce match est prévu le 13 décembre prochain. Avant de prendre l'avion hier, Patrice Carteron, le coach du TP Mazembe, s'est confié au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire en RDC.
Avec beaucoup d'ambition, on sait qu'on a un premier tour difficile, mais qui est malgré tout à notre portée, malgré tout le respect qu'on a, soit pour le champion du Japon, soit pour Auckland. Ce serait formidable d'arriver déjà en demi-finale. Et après, ben, on sait qu'on aura un exploit à réaliser face à River Plate, qui est champion d'Amérique du Sud, champion d'Argentine, grande équipe avec beaucoup de très grands joueurs. Donc il y va avec l'ambition de faire un grand championnat du monde.
Patrice Carteron, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe.
Pas de match ce mardi, comptant pour la CAN des moins de 23 ans au Sénégal.
Oui, les demi-finales, c'est demain entre le Sénégal et le Nigeria et entre l'Algérie et l'Afrique du Sud.
Bonne nouvelle pour le foot Sierra Leone, Nicolas.
Après le Liberia, au tour de la Sierra Leone délivrée de la menace Ebola, la petite nation d'Afrique de l'Ouest peut désormais de nouveau accueillir les compétitions de la CAF. C'est ce qu'a annoncé hier la Confédération africaine de football. On se rappelle que l'interdiction valait depuis août 2014, quand la CAF avait décidé, sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, d'interdire le déroulement de ces compétitions dans les pays touchés par l'épidémie d'Ebola, notamment la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. De ces trois pays, seule la Guinée reste sous le coup de l'interdiction de la CAF, le pays n'ayant pas encore été déclaré totalement épargné par l'épidémie.
La Ligue des champions à suivre en Europe ce soir.
Oui, la sixième et dernière journée de la première phase à suivre tout à l'heure. Le Paris Saint-Germain accueille le Shakhtar Donetsk, le Real de Madrid contre Malmö, Wolfsburg qui reçoit Manchester United, le CSKA Moscou en déplacement chez le PSV Eindhoven, Galatasaray contre le Lokomotiv Astana, le FC Séville face à la Juventus Turin, enfin Manchester City contre Mönchengladbach. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit.
Oui Nicolas, les Raptors ont mis fin à une série de deux revers en l'emportant 102-93 face aux Lakers de Los Angeles lors du dernier match de Kobe Bryant à Toronto. Ailleurs, Détroit 84, Charlotte 104, San Antonio 119, Philadelphie 68, Washington 114, Miami 103, Dallas 104, New York 97, Phoenix 103, Chicago 101, Portland 88, Milwaukee 90, Los Angeles Clippers 110, Minnesota 106, Boston 111, La Nouvelle-Orléans 93. Et cette nouvelle en NBA toujours, la marque Nike a signé un contrat à vie avec le basketteur double champion NBA, LeBron James. Aucun chiffre n'est cité, mais des observateurs estiment que le contrat éclipserait facilement les 300 millions de dollars du contrat de 10 ans signé par Nike avec Kevin Durant.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité sur VOA Afrique depuis Washington. Jacques Aristide toujours avec vous. Comme à l'accoutumée, nous allons maintenant consacrer le prochain quart d'heure à nos dossiers du jour. Le premier a trait à la crise qui continue en République centrafricaine. Gros plan ce matin sur les centaines de musulmans évacués du quartier PK12 de Bangui au plus fort du conflit et qui veulent retourner chez eux. Leurs maisons ont été occupées par des intrus qui refusent de vider les lieux, comme nous le rapporte Chris Stein, notre envoyé spécial dans la capitale de la Centrafrique. Son reportage est restitué ici par Michel Joseph.
En avril 2014, le convoi de camions évacuant les musulmans venait à peine de quitter le quartier PK12 que des pilleurs ont investi les lieux, emportant tout ce qu'ils pouvaient trouver. La mosquée centrale du PK12 a été détruite jusqu'à sa fondation dans une campagne de violence lancée par les milices anti-Balaka. Ces derniers accusaient les musulmans de la zone de soutenir les rebelles Séléka qui avaient pris le pouvoir au début de 2013. Le conflit qui s'est généralisé a fait des milliers de morts et de déplacés, chrétiens comme musulmans. Gervais Tekamba a emménagé dans une maison du PK12 qui appartient à des musulmans.
Ça, la maison où j'habite là actuellement, là, ça c'est pas pour les musulmans. Ça c'est pour un chrétien, c'est pour un national centrafricain. Donc même si les musulmans viennent, moi je ne peux pas accepter que eux, les musulmans, reviennent dans la maison.
Mahamat Tirabjo, lui, a fui le PK12 vers la fin 2013, au plus fort des affrontements intercommunautaires. Il dit n'avoir pas oublié sa maison dans son ancien quartier à Bangui.
Oui, mais pourquoi pas?
Notre maison a été détruite. Mais lorsque la paix reviendra, nous retournerons avec les papiers légaux prouvant que c'est notre terrain.
Pour parvenir à une paix durable, les autorités devront avant tout déterminer qui est propriétaire de quoi, estime Jonathan Pedno, chercheur à Amnesty International.
La question de la propriété foncière est cruciale pour l'avenir de ce pays, car si vous n'êtes pas à même de mettre en place les mécanismes nécessaires pour régler les problèmes avant le retour des déplacés, alors vous vous retrouverez avec des querelles de terre pouvant aisément se transformer en confrontation entre communautés.
Pour l'heure, la paix se fait attendre alors que les assassinats se poursuivent à Bangui et dans d'autres villes du pays. La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Cap maintenant sur le Kenya où la police et les forces de l'ordre sont montrées du doigt. Une association de défense des droits de l'homme les accuse d'être responsables de la mort par balle de plus de 300 personnes et des dizaines de blessés ces dernières années, dont des cas d'exécution sommaire et de nombreuses victimes de balles perdues. Les explications d'Eric Manirakiza.
Jérémy Mutiso, 28 ans, était assis près de sa maison à Mataré, discutant avec des amis un dimanche de juin 2011, lorsqu'une manifestation avait éclaté. La police est arrivée pour la disperser. De l'endroit où j'étais, j'ai entendu quatre coups de feu, et le quatrième était très fort. Je me suis senti tendu. Lorsque j'ai essayé de courir, mon bras ne pouvait plus bouger. J'avais la main dans mes poches arrière, mais lorsque j'ai essayé de les retirer, seule mon épaule pouvait bouger. Ce sont ceux qui couraient derrière lui qui lui ont signalé qu'il perdait du sang. Il lui a fallu des heures pour être admis à l'hôpital, où il passera 2 heures. De son lit d'hôpital, il avait demandé à son père de suivre l'affaire, mais a été choqué par la réponse paternelle. Il ne peut faire ce dont il a peur. Il ne pourra pas gagner par peur des conséquences. Les policiers pouvaient en représailles nous harceler. Depuis, Mutiso a déménagé vers des lieux plus sûrs. L'unité médico-légale indépendante du Kenya, en sigle IMLU, affirmait que la police est derrière au moins 2/3 des morts par balle entre 2009 et 2013 et la tendance se poursuit. Cette association spécialisée dans les cas de torture et d'abus a enregistré 199 meurtres perpétrés par la police en 2014, des dizaines de blessés et rien que pour le mois d'octobre cette année, elle dit avoir compté 97 meurtres commis par la police. Pour cette association de défense des droits de l'homme, la plupart des victimes ont été abattues par balles dans le dos ou dans la tête et dans certains cas, dans des exécutions sommaires, alors que la vie des policiers ne semble pas en danger. Peter Kiama, chef de l'unité médico-légale IEMLU, affirmait que beaucoup de cas ne sont pas signalés et pour le peu de victimes qui osent parler, justice est rarement rendue. Dans 99% des cas de gens victimes des balles policières dont nous nous sommes occupés ces cinq dernières années, la police a nié toute implication et a renvoyé les familles auprès du gouvernement et la majorité finit par jeter l'éponge. Charles Owino, porte-parole de la police, reconnaît qu'il peut y avoir des bavures pendant les opérations, mais selon lui, ce chiffre est exagéré et il ne faut pas toujours accuser les forces de l'ordre. Nous devons expliquer pourquoi nous avons tiré sur un criminel, mais le criminel ne doit pas répondre de ses actes. Nous avons quelques cas où des gens perdent leur vie, mais leur nombre n'est pas aussi élevé que les 200 morts par année avancés par IEMLU. Les autorités kenyanes sont au courant de la situation. En 2012, le gouvernement a mis en place une autorité indépendante pour superviser l'action de la police. Après une récente enquête, cette agence a recommandé l'inculpation d'un policier pour le meurtre de deux étudiants en novembre 2014.
Crise au sein des écoles relevant des églises catholiques au Cameroun. Des enseignants s'organisent pour dénoncer leurs conditions salariales, notamment les élèves en font les frais avec des cours momentanément suspendus de Douala. Le reportage d'Idée Sandrine Yamunga.
Le malaise est bien présent dans les écoles catholiques du Cameroun. Ces dernières semaines, les revendications jusque-là silencieuses se sont déportées dans la rue. Cas d'école, l'archidiocèse de Douala, prise d'assaut par des dizaines d'enseignants. Pancarte à main, ils dénoncent leurs conditions de travail en chantant. Ces employés de l'église catholique affirment être maltraités, eux qui dénoncent des salaires de catéchistes, l'absence de médecine de travail et de primes d'ancienneté, entre autres.
Ça fait depuis 30 ans, moi, 28 ans que moi je travaille. Les salaires que nous avions quand l'école était à 5 000, c'est ça que nous avons presque aujourd'hui où le collège est à 40 000, 60 000.
50 000 francs à Douala, vous devez payer le loyer. Vous devez payer la santé, vous devez payer l'éducation des enfants. Vous croyez vous-même à notre place que nous allons faire comment? C'est pour cette raison que nous sommes venus ici aujourd'hui, passivement montrer à notre employeur que nous sommes mécontents.
Conséquence, les cours ont été interrompus durant plusieurs jours, obligeant les parents à se joindre au mouvement.
Nos enfants portent les maladies dans les toilettes. On nous exige à nous de donner le matériel pour entretenir les toilettes. Ils ont pris cet argent pour construire les toilettes payantes. Vous savez que pour que nos enfants aillent là-bas, là où c'est propre, il faut payer.
C'est depuis plus de 10 ans que les enseignants des écoles catholiques crient leur misère. Un fait connu de leurs défenseurs. Luc Nyomok est le président du syndicat des enseignants privés catholiques.
Parce que cette fois, je crois que le syndicat devra prendre ses responsabilités si on observe encore un certain dilatoire.
Les autorités administratives se sont penchées sur la situation qui a occasionné des désagréments. Le sous-préfet de Douala Premier a appelé à l'apaisement et à un retour en classe pour les enseignants, donnant ainsi une chance aux négociations. Jean-Marc Ekoambaga, sous-préfet de Douala Premier.
Nous examinons tous les problèmes, encore que l'archevêque a déjà concédé. Il dit, vous avez un problème de médecine du travail, il vous concède cela. Vous avez un problème de prime d'ancienneté. Nous devons discuter par rapport au protocole de 1984.
L'Église catholique s'est donc engagée à revoir les conditions de travail de ses employés. Monseigneur Dieudonné Bahimek est le vicaire général de l'archidiocèse de Douala.
Non, l'archevêque a accepté la médecine de travail qu'il mettra à la disposition des enseignants auprès de l'inspection. Un médecin pour consultation gratuite. Il y a la prime d'ancienneté qui sera calculée et applicable à partir de janvier.
L'école a repris, mais le spectre du soulèvement ou des manifestations semble ne pas être très éloigné. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, pour Voix de l'Amérique.
Le gouvernement suédois a débloqué une enveloppe de 12,5 milliards de francs CFA en faveur de l'UNICEF au Mali. C'est dans le cadre d'un protocole d'accord concernant la protection de l'enfance, l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que l'inclusion sociale. D'une durée de 4 ans, le programme couvre les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Reportage Mamoudou Bokoum.
Deux signatures au bas d'un document, c'est pour donner du sourire à des centaines de milliers de personnes dans les régions du nord du Mali. Ce geste est du gouvernement de la Suède et son partenaire UNICEF. Les domaines d'intervention de ce programme sont clairs et précis. Alessandra Dentis est l'adjointe au représentant résident de l'UNICEF au Mali.
On travaillera certainement sur l'accès aux services sociaux de base, notamment sur l'accès à l'eau potable, mais aussi au niveau des services d'hygiène et d'assainissement, une chose très importante en considérant que par exemple ici dans la région de Mopti, il n'y a que 47% de la population qui a accès à des sources d'eau améliorées. Mais aussi on travaillera dans l'accès aux services pour les enfants qui ont été victimes d'abus, exploitation, mais on travaillera surtout dans la prévention pour qu'un certain nombre d'abus, d'exploitation et de violences ne soient plus faites vis-à-vis des enfants. Et on travaillera aussi pour appuyer le gouvernement à développer un certain nombre de politiques entre guillemets amis des enfants. Donc des politiques qui, au niveau de leurs objectifs, mais surtout au niveau de leur budget, puissent prendre en considération la vulnérabilité spécifique des enfants.
La protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que l'inclusion sociale, voilà les trois composantes dans lesquelles intervient ce programme. Coût total, 12 milliards et demi de francs CFA pour une durée de 4 ans. Eva Emnos, ambassadeur de la Suède au Mali.
Le choix de ces trois composantes n'est pas fortuit. Il complète et est en synergie avec les efforts déployés dans les autres composantes du programme de pays, notamment celle de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Il répond aussi aux objectifs de notre stratégie de coopération avec le Mali, mais aussi des engagements pris par la Suède au niveau global en faveur d'un monde digne pour les enfants et est en conformité avec les objectifs de développement durable.
Dans la région de Mopti, l'accès aux services sociaux de base est très faible selon des statistiques comparativement au plan national, d'où l'importance de ce programme. Kaman Kane est le gouverneur de la région de Mopti.
Cette cérémonie qui va consacrer la signature de protocole entre la Suède et l'UNICEF sur le programme de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali revêt à mes yeux une importance capitale. Elle est en effet le point de départ de l'amélioration du pourcentage d'utilisation d'une source d'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans la région.
Les autorités municipales se sont dit prêtes à accompagner ce programme pour le bonheur de la population. Et l'ambition de l'UNICEF, c'est d'apporter le bonheur dans des milliers de familles au Mali à travers les activités du programme. Alessandra Dentis, adjointe au représentant résident de l'UNICEF au Mali.
On espère avec tout cœur que ce programme fasse tache d'huile et que les bailleurs et les partenaires techniques et financiers comme la Suède voient que le Mali, il est vraiment un carrefour très important, qu'il faut continuer à le soutenir et qu'il faut tous contribuer à que la paix revienne dans ce pays.
Mamoudou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui, à la réalisation Anne Albertson, à la technique Charles Hall. Merci chers amis fidèles de La Voix de l'Amérique pour votre attention. Rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Take care.